Amis auditeurs, bonjour. Émission de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Aujourd'hui, regard sur la Chine avec Badu Cao, artiste politique. Bonjour Marie-Françoise.
Bonjour Jean.
Amis auditeurs, forcé de garder secrète son identité, Badu Cao est un dessinateur d'origine chinoise qui s'arme de crayons et de pinceaux pour défendre les droits humains en Chine. Exilé en Australie, il a soutenu plusieurs victimes suivies par l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, dont Liu Xiaobo, écrivain et professeur d'université, militant des droits de l'homme à l'ère des réformes de la Chine, mort en 2017.
D'où vient Badu Cao ?
Né en Chine, à Shanghai, dans les années 80, il ne peut révéler son âge exact. Réalisateur de films, ses grands-parents paternels ont été persécutés dans le cadre de la répression dite anti-droitiste en 1957. Série de campagnes lancée par Mao Tse-tung visant à évincer les militants libéraux, la plupart des intellectuels. Ses grands-parents ont, tous les deux, eu des problèmes à cause de leur production de films, dont plusieurs ont été jugés mauvaises pour la société. Et ils en ont payé le prix fort.
Que leur est-il arrivé ?
Son grand-père a été envoyé dans un camp de travaux forcés, similaire à ceux qui enferment les Ouïghours aujourd'hui. Les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman sunnite, habitant une région autonome de la Chine. Donc, Badu Cao a grandi dans l'ombre de cette histoire avec la conscience qu'être un artiste et exercer sa créativité pouvait être dangereux. Si sa famille ne lui avait pas transmis cette mémoire, il n'aurait jamais connu, via le système éducatif et les médias chinois, l'histoire de cette répression. Grâce Et à cause de cela, il a commencé à s'interroger sur la censure.
Et qu'en pensent ses parents ?
À cause de cette histoire familiale, ses parents estiment qu'il est risqué d'être un artiste et ne l'ont jamais encouragé à l'être. C'est l'une des raisons pour laquelle il a décidé de quitter la Chine afin de poursuivre la voie qui l'intéressait.
Et où a-t-il choisi de vivre ?
Il a passé plusieurs années en Australie avant d'obtenir la nationalité. Il a été confronté aux difficultés rencontrées par les migrants partout dans le monde. La douleur de quitter son pays. Se reconstruire dans un pays étranger. Se confronter à la bureaucratie, la barrière de la langue, le choc culturel.
Pourquoi avoir choisi de mettre l'art au service des droits humains?
Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'art, on s'attaque à la condition humaine. Par exemple, en peinture, lorsque l'on parle de Pablo Picasso, on pense automatiquement à Guernica, une de ses œuvres les plus célèbres, représentant la guerre d'Espagne, ou le tableau de Francisco de Goya, 13 de Mayo, représentant la fusillade du 3 mai 1814. Tout ceci est lié à la liberté d'expression, au choix que font les humains en opposition aux autorités. Ce qui se rapproche du travail des dissidents et des défenseurs des droits humains, c'est un pont naturel qui cherche à élargir notre liberté.
En Chine, comment est représenté l'art ?
Il vient d'une culture qui utilise l'art en tant qu'outil politique. C'est une plateforme de propagande. Si l'on ne se bat pas en tant qu'artiste, ce sont les dictateurs qui s'en chargeront. Ils pensent qu'il ne faut pas se dérober à cette responsabilité.
Son travail lui a-t-il valu des représailles ?
Il a eu quelques inquiétudes, malgré le fait qu'il ait toujours gardé son identité secrète. Il a été victime de cyberattaques sur son compte Twitter, des articles diffamatoires sont écrits sur son compte afin de lui enlever toute crédibilité. Certains blogs chinois l'ont décrit comme un pervers. Ils ont même acheté un faux nom sur Internet qui est badiciao.fr pour y créer un faux site d'artiste rempli d'articles l'attaquant. Cela a duré un an et ces attaques viennent de la Chine continentale.
Nous reprenons notre émission sur le peintre chinois Badiucao, obligé de s'expatrier en Australie. En 2018 a été lancée la campagne Tankman pour commémorer le massacre de Tiananmen.
Voilà 30 ans, le 4 juin 1989, de nombreux Chinois étudiants, intellectuels, ouvriers furent massacrés pour avoir revendiqué des réformes politiques démocratiques et la fin de la corruption.
Quelle place cet événement tient-elle dans l'œuvre de l'artiste ?
Alors qu'il était encore à l'université en Chine, un camarade a téléchargé illégalement une série taïwanaise à l'eau de rose. Dans le fichier piraté se trouvait un documentaire sur les événements de Tiananmen en date de 1995. À l'époque, au début d'Internet, c'était une façon de contourner la censure chinoise. Le documentaire avait été placé au milieu des épisodes de la série. Il n'était donc pas détectable par les censeurs. Ce fut un choc, car pour la première fois, ils prenaient tous les deux conscience de ce qui s'était passé, car ils n'avaient jamais entendu parler de ce massacre. Ils avaient le même âge que ces étudiants morts sous les tanks. Ces jeunes étaient passionnés, courageux, idéalistes. Ce fut un moment décisif pour l'artiste. Ce massacre ne s'était produit que 15 ans auparavant et cela était resté caché dans l'ensemble de la population. Il a réalisé que la Chine n'avait pas changé et qu'elle demeurait le même pays répressif.
En France, que pouvons-nous faire ?
Une majorité des gens pensent que la Chine n'est plus le pays qu'il était autrefois, que les atrocités commises à la révolution culturelle, puis au massacre de Tiananmen, appartiennent au passé. Si les jeunes générations ont tendance à penser que la Chine a évolué de manière positive, si ces jeunes apprenaient qu'il est impossible d'accéder à Google, Facebook, Instagram, ils comprendraient que la réalité est tout autre. L'artiste Badiucao dit « Si vous voulez réellement savoir ce qu'est la Chine, intéressez-vous à ce qu'elle cache. »
Ceux qui veulent défendre les droits humains peuvent soutenir les organisations qui font campagne sur le sujet. utiliser les réseaux sociaux pour partager des informations indépendantes, voire en parler aux hommes politiques locaux. Tout est basé sur l'information qui se révèle cruciale.
Nous terminons par une note optimiste, si on peut compter comme ça. Grâce à vous, en Argentine, un décret d'extradition de Mario Sandoval a été signé. Donc, ce décret, fin octobre, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a signé le décret d'extradition de Mario Sandoval, qui est un ex-policier accusé de crimes contre l'humanité sous la dictature argentine et qui résidait en France depuis 1985. Donc, il reste au Conseil d'État immédiatement saisi par l'accusé de se prononcer. C'est la dernière étape. Grâce à vous, tout cela est possible. Amis auditeurs, merci pour votre écoute. Au revoir.